Avant de parler de ta première nouvelle, comment tu penses que Québec va gérer les propos du docteur Arruda hier sur les restaurants? Quand il dit que lui, il aurait peut-être laissé ça ouvert pour les gens de la même famille.
Là. Ah ben là, qu'est-ce que tu veux? Les restaurateurs ont déjà commencé à réagir en disant « Mais c'est ça, vous nous avez sacrifiés. »
Ce qui est vrai aussi. Là.
Ben, ça ressemble à ça, là. Et puis tu sais, c'est la fin de session à Québec, là. Il reste deux journées, là. Il reste aujourd'hui, puis il reste demain, là. Fait qu'avec l'affaire de Fitzgibbon, puis les déclarations d'Arruda hier, que Bérubé est allé chercher de belle manière, je pense qu'il faut le souligner, là. C'est sûr que ça va mettre le gouvernement sur la défensive. Ils vont être obligés de justifier pourquoi ils l'ont fait. Puis on comprend pourquoi ils l'ont fait,
Paul.
Ils vont
dire qu'ils sont pas tout seuls à le faire aussi, là.
Oui, puis on va, tu sais, l'argument de dire, tu peux pas d'un côté interdire les rassemblements dans les maisons, puis permettre les rassemblements, entre guillemets, dans les restos, même si M. Massé a bien précisé que ça aurait été la bulle familiale qui aurait pu se déplacer dans les restos. Mais c'est sûr que ça va forcer François Legault à justifier ses décisions. Et puis, les restaurateurs, ils sont nombreux hein, au Québec, Paul.
C'est
pas mal de monde, hein. C'est beaucoup
oui,
de petits...
c'est pas mal de monde qui trouve que les temps sont difficiles là, puis qui sont pas certains qu'ils vont traverser la crise. Il y en a qui ont déjà fermé. Là. Au Canada, c'est 10 000 à peu près. Là.
Moi, je te dirais, ça. Puis c'est pas mal de monde qui connaissent beaucoup de monde aussi.
Qui ont des propriétaires, leurs employés.
Puis ils ont des clients, puis bon. Et puis les clients, dans certains cas, sont très attachés à leur resto. Tout ça s'y fait. Moi, je pense que les restaurateurs...
T'as vu la pub, là, on refuse de vous servir.
Oh, oui, non, exactement. Mais ça donne un pouvoir de force.
Avec tous les ministres, députés de la CAQ, là.
Ça, oui, je sais. Ça donne un rapport de force aux restaurateurs pour demander une aide financière d'urgence. Je pense que... Okay. Je pense pas que Legault va céder, là. Mais je pense que les restaurateurs peuvent se servir de ça pour dire, « Hey, là, tu nous as sacrifiés. Ben là, tu vas t'organiser pour sauver le maximum de restaurateurs parmi nous. »
La saga de la cimenterie McInnis devrait connaître son dénouement aujourd'hui.
Elle va connaître son dénouement aujourd'hui. L'information que j'ai, Paul, c'est que la cimenterie, donc de Port-Daniel, va changer demain. Ça va être annoncé dans les prochaines heures. Et cette transaction va confirmer une fois pour toutes que les Québécois ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent dans cette aventure. Laissez-moi d'abord vous donner l'information sur la nature de la transaction, si ça va vous aider à comprendre ce qu'on perd et ce qu'on va peut-être sauver, ce qu'on va garder. Alors, c'est bien la Brésilienne Votor Antim, donc géant du ciment, qui fait l'acquisition. Votor Antim, Paul, a déjà 4 cimenteries en Amérique du Nord. 2 en Ontario, 2 aux États-Unis. Et donc, ce que les Brésiliens vont faire, c'est qu'ils créent une nouvelle entreprise, en fait, une nouvelle co-entreprise dans laquelle ils vont déposer leurs 4 cimenteries actuelles, plus la cimenterie de McInnis. Alors, évidemment, Votor Antim, les Brésiliens vont être actionnaires majoritaires, propriétaires majoritaires de la nouvelle co-entreprise. Et qui sera actionnaire minoritaire? La Caisse de dépôt.
OK.
OK, donc la Caisse de dépôt...
Quand tu dis minoritaire, est-ce que tu sais à combien?
Ça, j'ai pas été capable de le savoir, mais dans les informations que j'ai pu glaner, ce que je comprends, c'est que c'est à peu près un rapport de 1 sur 5. Tu sais, on dépose une cimenterie dans la nouvelle coentreprise. Il y en avait déjà 4. J'ai l'impression qu'on va avoir un actionnariat d'autour de 15 à 20 % à confirmer. Alors évidemment, la Caisse limite les dégâts en faisant ça parce que elle ne cède pas la cimenterie, elle ne la vend pas, donc il n'y a pas de radiation d'actifs. On reste actionnaire, on reste propriétaire de quelque chose, d'un actif, donc de cette nouvelle co-entreprise. Bon, fait que ça, pour ce qui est des déposants, là, pour ce qui est des retraités, des futurs retraités, mettons qu'on sauve la mise. Pas sûr qu'on va faire ben d'argent avec ça, là, mais à tout le moins, on va dire on sauve les meubles. C'est ça l'expression que je cherchais, on sauve les meubles. Bon, maintenant, je ne te parle pas d'Investissement Québec dans cette nouvelle co-entreprise. Je ne te parle pas non plus de la famille Baudouin-Bombardier parce qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Donc,
mais Québec perd combien dans l'aventure?
La Caisse a mis 500 millions dans l'aventure. Alors, combien est-ce qu'on va récupérer si, mettons, on vend notre 20 % mettons que c'est 20 % si on vend notre 20 % dans 10 ans, est-ce qu'on va récupérer notre capital de 500 millions que la Caisse a mis? On verra bien. Mais Investissement Québec, là, officiellement, on a mis 378 millions. Là. Investissement Québec a mis 378 millions. C'est ce que Éric Girard a radié dans son dernier, dans sa dernière mise à jour. Mais moi, là, des informations très, très sûres en provenance de Québec me disent que dans les faits, Investissement Québec va avoir perdu 472 millions. Dans l'aventure. Fait qu'on perd, grosso modo, un demi-milliard.
Ça, c'est au minimum.
Ça, c'est au minimum. Et au cas où vous vous poseriez la question, la famille Bombardier-Baudouin, eux autres, ils perdent combien? La société Baudier, ils perdent 300 millions là-dedans. Fait que, Paul, ça va nous avoir coûté, là, collectivement, au moins un demi-milliard, puis on verra combien la Caisse va récupérer de son demi-milliard, puis Bombardier puis Baudouin, eux autres, ils perdent un autre 300 millions. Je dis sauver les meubles, Paul, parce que, oui, on reste propriétaire d'un actif. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que si on avait gardé la propriété de la cimenterie, on aurait été obligé de réinvestir un autre 100 à 200 millions dans les prochaines années. Alors, avec cette transaction-là d'aujourd'hui, ça nous évite de devoir repomper de l'argent public dans la cimenterie. Alors, il faut regarder ça. Puis, évidemment, on sauve 200 emplois en Gaspésie. On sauve 200 emplois à Port-Daniel.
Ça commence à coûter cher de l'emploi, par exemple.
Mais ça commence à coûter cher l'emploi, t'as bien raison de le dire. Fait que c'est ça qui est ça. Quelles sont les leçons qu'on va retirer de cette...
On m'a dit que les méga investissements en Gaspésie, là, je pense la fameuse Gaspésia d'abord, on se souvient tous du naufrage. Là, ciment mécaniste.
Non, c'est pas bon. Puis Paul, moi, je n'essaierai pas de me défiler, là.
Non, mais...
J'étais là, moi, quand la décision a été prise d'investir dans ciment mécaniste. Ça faisait des années que ce projet de cimenterie était poussé par les gens de la Gaspésie. Ça faisait depuis les années 80 qu'on en parlait. Et puis là, ben, le gouvernement du Québec a décidé d'embarquer. Et puis, c'était un projet de développement économique régional, Paul. Puis est-ce qu'avec le recul, c'était une bonne idée? La réponse, c'est non, ce n'était pas une bonne idée. Mais on voulait aider les Gaspésiens. C'était difficile, puis on regarde. Alors, les leçons qu'on doit tirer de ça, l'une des principales leçons, sinon la principale, Paul, c'est méfions-nous quand le privé veut pas embarquer. Je pense que, tu sais, avant d'embarquer dans des projets comme ça à l'avenir, là, parce que là, le gouvernement Legault, là, il y en a des grands projets d'investissement public. Là, ils veulent qu'Investissement Québec investisse dans la filière... électrification des transports, dans la filière lithium, dans la filière batterie verte. Il va en avoir des investissements publics. Assurons-nous que les
privés... Que le privé est au rendez-vous. Là.
Que le privé est là. Et deuxièmement, Paul, qu'on ait un opérateur. Paul, Baudouin Bombardier, ils connaissent rien dans le ciment. La Caisse pouvait pas opérer une cimenterie. On se lance dans un projet... Puis qu'est-ce que tu veux? On n'avait pas à la table, autour de la table, des spécialistes du ciment qui savent comment faire marcher une cimenterie. Fait que ça a donné ce que ça a donné. Ça va être confirmé dans les prochaines heures.
Bon, le dossier santé, c'est la rencontre entre M. Trudeau et ses vis-à-vis des provinces.
Oui, voilà. Alors, rencontre par visioconférence, évidemment. Alors, vous connaissez la litanie habituelle. Les provinces vont demander plus d'argent parce que, avec raison, diront-elles, la santé coûte de plus en plus cher. Ottawa va répondre, on vous a aidé déjà pendant la pandémie, on va continuer à le faire, mais attention, on va vouloir s'assurer que l'argent qu'on va verser va servir à payer la santé et pas à éponger vos déficits. Et puis là, les provinces vont répondre, c'est parce que les dépenses en santé explosent qu'on a un déficit. Bon, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, là, ça va ressembler pas mal plus à un exercice de relations publiques et un début de négociation qu'à un exercice qui va donner vraiment des résultats. Mais surveillez l'alliance entre François Legault et Doug Ford. Je vous le rappelle, Ford a un gros problème de déficit, 40 milliards cette année, 30-quelques milliards l'an prochain, pas loin de 30 milliards l'année d'après. Le gars, il a besoin d'argent. Le Québec aussi, on a un déficit pour les trois prochaines années. M. Girard l'a dit, il faut aller chercher de l'argent à Ottawa pour nous aider avec ça. Donc, il faut que d'ici le printemps prochain, d'ici le prochain budget fédéral, il faut que Justin Trudeau décide ce qu'il va faire pour les provinces. Est-ce qu'il est prêt à augmenter les transferts en santé? Si oui, dans quel ordre? Et je vous dis, surveillez Legault et Ford, parce qu'eux autres vont continuer à mettre de la pression sur Trudeau. Les chefs de cabinet de Ford et de Legault se parlent à chaque semaine, Paul. Encore hier, ils se sont parlé.
Le Front Québec-Ontario.
Absolument. Bon. Ils vont continuer à mettre de la pression sur Trudeau. Et Trudeau a besoin de l'Ontario pour garder le pouvoir. Il a besoin du Québec pour récupérer sa majorité. Puis c'est à l'intérieur donc de ce rapport de force que va se jouer la négociation. Point de presse de Justin Trudeau après la rencontre d'aujourd'hui vers 16h, 16h30.
Merci, monsieur. Bonne journée.
Toi aussi.
7h12, la 40.